Dans un premier temps, on va avoir Francis qui va lire le texte de Franck Georgie. Franck m'a appelé ce matin. Il a le Covid, apparemment assez sévère, et donc il est resté chez lui. Mais il nous avait confié un texte sur les origines historiques de l'autogestion, donc Francis va le lire. Ensuite, on aura Jean-Claude Richard, qui n'est pas là non plus, mais il y a Philippe Diboubiche qui nous parlera des coopératives autogérées alimentaires, voilà, puisqu'il en est très largement l'un des initiateurs aussi. Après, on déjeunera, sachant que c'est les jeunes du lycée autogéré avec les profs qui assurent la restauration. Donc tout est autogéré, même la nourriture. En début d'après-midi, il y a Aimé Marsayan, que vous connaissez peut-être, qui est un historien, qui va nous parler de l'autogestion dans l'Espagne libertaire, c'est-à-dire le grand moment de la CNT et de la FAI en Espagne, qui a mis en place un certain nombre de structures de gestion de la société libérée des curés et de l'exploitation. Ensuite, on fera quelque chose sur l'autogestion pédagogique à plusieurs voies. Je rappellerai quelques principes de l'autogestion pédagogique. Ensuite, nous aurons les copains enseignants à Saint-Nazaire et au LAP qui feront un petit historique de ces lycées dits expérimentaux, sachant que c'est une expérience qui dure depuis 40 ans, donc on peut quand même s'interroger sur la dimension expérimentale. Et puis, les jeunes de Saint-Nazaire et du LAP Paris vous diront comment ça fonctionne. Voilà, donc tout le monde va avoir le droit à la parole. Et on fera une petite pause quand même entre 15h30 et 16h. Et ensuite, on aura un certain nombre de copains iraniens qui nous diront ce qu'il en a été des tentatives d'autogestion dans les années 79-80 en Iran. Mais je pense qu'ils nous feront aussi un point sur la situation en Iran aujourd'hui, parce que vous savez qu'il s'y passe des choses tout à fait épouvantables, en particulier une répression très sévère dans le pays kurde. Voilà. Ensuite, on aura Amaury qui est peut-être là. Pas tout à fait. Ah si, qui est là, qui vient d'Ambiance Bois, pardon. C'est une coopérative de production très ancienne qui a 25 ans, c'est ça, Amaury ? 35 ans, voilà, et qui fonctionne en autogestion depuis 35 ans en produisant des choses autour du bois, mais Amaury vous en dira davantage. Et puis, pour terminer l'après-midi, on passera un documentaire de Chris Marker, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait un document sur l'IP il y a quelques années. Donc on passera ça, parce que ça a été aussi une grande expérience ouvrière en matière d'autogestion. Voilà. On déjeune, ou on dîne plutôt, et ce soir on aura un concert avec un groupe Oulendal, qui est plutôt de type musique bretonne traditionnelle, on va dire ça comme ça, encore que, ils ne diraient peut-être pas ça à eux, mais ils vous le diront. Et puis on finira par Ubamix, qui là est un groupe bien plus stressé, ou stressant, je ne sais pas, pour moi, c'est stressant, c'est sûr. Pour les autres, je ne sais pas. Voilà, donc quelque chose de bien plus mixé, de la musique, un peu de jazz, un peu rock, quelque chose comme ça. Voilà pour la journée. Je laisse la parole à Francis, qui va donc nous dire ce que Franck Georgie aurait pu nous dire si le Covid ne l'avait pas rattrapé.
Bien. Alors, le texte s'intitule « Autogestion et société ». Il y a plusieurs manières d'aborder l'histoire de l'autogestion. On peut partir de l'idée que l'expression désigne l'aspiration permanente des hommes à se gouverner eux-mêmes et en traquer les expressions depuis l'Antiquité. On peut aussi, en ne remontant qu'au XIXe siècle, l'étudier comme une tradition « dominée » entre guillemets du mouvement ouvrier qui prendrait ses sources théoriques selon les auteurs chez Proudhon, Bakounine ou Marx et en recenser les manifestations concrètes depuis la Commune de Paris. On peut enfin, et c'est l'approche que nous avons retenue, restreindre encore la chronologie et considérer que l'autogestion contemporaine, pour reprendre l'expression de Daniel Guérin, renvoie à un moment très spécifique de notre histoire récente qui illustre en France la fortune d'un mot nouveau. En effet, le terme autogestion n'existe pas avant le début des années 1950. Il est la traduction littérale d'un terme serbo-croate que je suis incapable de prononcer, excusez-moi, qui désigne la gestion ouvrière, entre guillemets, des usines, décidée par Tito au lendemain de sa rupture avec Staline. Cette origine est déterminante pour la suite. Elle traduit une nécessité stratégique de la part des Yougoslaves, se poser en chef de file d'un modèle plus attrayant du communisme pour briser l'isolement du pays. Rencontres, voyages sur cette terre d'expérience, entre guillemets aussi, entretiennent la sympathie durable des gauches anti-staliniennes. Ainsi se forge progressivement un mythe yougoslave dont l'autogestion constitue une dimension fondamentale. À la veille de 1968, le terme est revendiqué en France, notamment par des courants divers ayant en partage le double refus du capitalisme libéral et du socialisme étatique. Plusieurs facteurs favorisent ce phénomène. À l'Est, l'ébranlement de 1956 et la renaissance des conseils ouvriers en Hongrie et en Pologne. À l'Ouest, les débats sur le sens d'un projet socialiste dans une société industrielle avancée. Au Sud, enfin, l'Algérie indépendante qui semble vouloir à son tour emprunter la voie autogestionnaire. Marxiste critique, trotskiste, conseilliste, libertaire, chrétien de gauche, syndicaliste et sociologue, s'attache à analyser les pratiques et à donner au concept une portée universelle. Il puise dans les réflexions engagées depuis plusieurs années par des revues confidentielles, Socialisme ou barbarie, Arguments, Noir et Rouge, et le milieu des années 60 correspond à une cristallisation. Des situationnistes à la gauche CFDT, l'affirmation autogestionnaire effectue sa première percée. Peu importe ici que le néoconseillisme radical des premiers n'ait que peu en commun avec les références personnalistes et modernistes des seconds, ou que la Yougoslavie constitue pour les uns une caricature entre guillemets, pour les autres une ébauche riche d'enseignements. Signe des temps, une petite revue indépendante, savante et militante, baptisée Autogestion et exclusivement consacrée à ce sujet, voit le jour en 1966. C'est la rencontre avec l'événement qui fait sortir l'autogestion des marges et la projette au cœur de l'espace public. En mai 1968, une partie des acteurs et des observateurs y voient le sens même du mouvement. En quelques années, la référence s'impose partout. Syndicats, CFDT, partis de gauche, PSU, PS et d'extrême gauche, associations et mouvements alternatifs de toute nature se réclament du socialisme autogestionnaire. Le PCF lui-même, après l'avoir condamné, finit par revendiquer le mot. Une grève ouvrière au retentissement exceptionnel, celle de l'IP en 1973, un nombre impressionnant de rencontres et de publications sur le sujet, un bouillonnement d'initiatives et d'expériences, autorise en 1976 un Pierre Rosanvallon à annoncer l'avènement de, entre guillemets, l'âge de l'autogestion. Pourtant, à l'aube des années 1980, la dynamique est brisée et le mot déserte très rapidement le discours politique. On peut s'interroger sur les raisons de la soudaine popularité du thème, sur les facteurs de son effondrement tout aussi brutal et sur ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est donc le texte de notre ami Franck Georgi.
Voilà, donc on va vous donner la parole. Peut-être des choses à ajouter par rapport à cela, sachant que vous pouvez questionner éventuellement Francis qui a lu le texte, et éventuellement Serge qui lui aussi connaît bien les choses puisqu'il a fréquenté beaucoup les gens de Solidarność, le syndicat polonais, et qui a eu des expériences ou des revendications autogestionnaires en Pologne dans les années 80. Et puis, il y a tout ce que vous connaissez sur le sujet que vous pouvez éventuellement nous faire partager. On va utiliser des micros HF, hommes-femmes, apparemment. Ils ne sont pas genrés, c'est ça. Donc, s'il y en a qui souhaitent intervenir. Serge ?
Oui, je ne vais pas intervenir longuement. Je répondrai éventuellement à des questions. Bon, j'ai bien suivi l'épisode sur Solidarność, déjà. Enfin, c'est un peu dommage qu'il n'y ait aucune allusion, parce que ça a été une chose extrêmement importante. D'ailleurs, on le sait pas trop en France, mais en fait, le vrai nom, c'était Syndicat Autogéré Solidarność. Alors déjà, un fonctionnement interne, bon, je ne détaille pas, on pourrait me poser des questions, le plus horizontal possible. malgré la présence de Valéza et des conseillers de l'Église, mais qui se sont trouvés très minoritaires au Congrès, j'ai assisté au Congrès. C'était vraiment un élément très important, puisque la, en gros, le sujet principal, on peut même dire, c'était l'autogestion. Mais pas l'autogestion, on va en causer, l'autogestion, on va la mettre en place. Et donc, ils avaient commencé à mettre en place la gestion des entreprises dans deux régions. Et ensuite, ils voulaient généraliser. Ce qui fait, donc j'en parlerai pas plus longtemps, ce qui fait que j'ai un communiqué de l'agence TAS qui, à peu près un mois à la fin
tu rappelles ce qu'était l'agence TAS. Rappelle ce qu'était l'agence TAS, parce que c'est pas sûr que tout le monde connaisse bien cet objet. L'agence TAS, c'était quoi ?
L'agence TAS, c'est l'agence officielle de l'URSS de l'époque.
Donc ouais. C'est la voix du KGB, quoi.
Et donc, qui accuse Solidarność, est anarcho-syndicaliste, en argumentant, parce qu'ils reprennent la production, et ils veulent remplacer la société, en gros, quoi. Voilà, donc s'il y a des questions plus précises, je pourrais y répondre. C'est un événement qui a... Même les militants en France sont passés à côté. Je pense à la connaissance, d'ailleurs le texte montre qu'il n'y a aucune allusion. C'est dommage, parce que moi j'ai acheté dans une entreprise, je voyais tout ça, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux, et ce qui a expliqué l'état de guerre. Alors ça, je n'ai pas de réponse. Toujours le problème que quand on met en place un mouvement social très fort, eh bien la répression derrière. Voilà. Mais j'en dis pas plus, hein. Je répondrai à des questions éventuelles.
Voilà. Sachant qu'il y a eu aussi des expériences tout à fait intéressantes en Argentine pendant la crise économique d'il y a quelques années, où effectivement un certain nombre de patrons sont partis, où on licencié les gens, et un certain nombre de personnes. On dit, puisque c'est comme ça, on se réapproprie les usines et on redémarre la production. Donc c'est pas un phénomène qui est si rare que ça, dès que les gens sont en mesure de reprendre leurs affaires en main. Qui souhaite intervenir ? Quelqu'un ? Je cause toujours, parce que c'est en direct sur Radio Libertaire, et sinon ça fait des blancs terribles. Voilà. Tu nous dis un peu qui tu es ?
Moi c'est Tristan, du coup je suis élève du lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui est un lycée autogéré du coup. Et j'avais une question, je commence tout juste à étudier beaucoup d'écrits libertaires et beaucoup d'écrits anarchistes qui relatent beaucoup les expériences d'autogestion. Et je me demande quel mouvement, quelle révolution, dans quel pays l'autogestion a vraiment fait que ça a été propulsé à l'échelle internationale et globalement dans le monde. Je sais que pendant la révolution espagnole, en Catalogne, c'était très présent, il y avait des communes qui étaient autogérées, etc. Et du coup, je me demandais quel mouvement a vraiment propulsé ça. Est-ce que c'est un penseur en particulier qui a fait que... l'autogestion est devenue internationale. Bref, ouais.
Oui. Même si les Espagnols ont fait beaucoup de choses en Catalogne, mais aussi en Aragon, en Andalousie, ils ne parlaient pas d'autogestion, parce que le terme n'était pas utilisé. Ils parlaient de collectivisation, ce qui revient d'ailleurs au même du point de vue des pratiques. Je ne sais pas, quelqu'un peut répondre ou pas ? Comment ce mouvement s'est impulsé ? Bon, il a été très largement porté par le mouvement anarcho-syndicaliste, ça c'est tout à fait évident. En Espagne, le mouvement anarcho-syndicaliste, ce qui est un phénomène rare, était très largement majoritaire dans le mouvement ouvrier, à la fois catalan et au-delà. Et donc c'est eux qui ont poussé ça. Cela dit, ils ont été combattus par les militants communistes espagnols et le PSUC. Et une fois la guerre d'Espagne terminée, l'idée de l'autogestion et des collectivisations, du fait de la guerre par ailleurs, est très largement tombée dans l'oubli, quoi, sachant que le mouvement libertaire est régulièrement passé à la trappe de l'histoire. Parce que soit il gêne, soit il est maladroit dans son expression, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça n'a pas été repris dans l'après-guerre, sauf du côté des Yougoslaves qui ont voulu se démarquer de ce que s'y se faisait dans l'économie stalinienne. Voilà. Mais sachant que ce n'était pas une vraie autogestion, dans la mesure où l'État continuait à être là et à contrôler un certain nombre de choses. Donc il y avait des pratiques autogestionnaires, mais ce n'était pas l'autogestion généralisée, puisque l'État et l'armée étaient toujours extrêmement... présente.
On peut souligner, pour d'ailleurs tous les mouvements et toutes les actions liées à l'autogestion, liées à une période révolutionnaire, c'est qu'on intervient dans des moments de conflit. Si on pense à Makhno en Ukraine, si on songe à la révolution espagnole pendant la guerre civile, si on songe même à 1968 et enfin, si on songe à Lippe, c'est toutes ces expériences se font dans une situation de conflit. Lippe, ça ne s'est pas fait facilement. Je rappellerai ce mot d'un premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, qui affirmait « Lippe, c'est fini », alors qu'en fait, ce n'était pas fini du tout. Mais on voyait bien que tout était fait pour planter cette expérience. Donc ça, c'est probablement quelque chose de difficile à monter dans une société qui n'accepte pas cette dimension autogestionnaire. Pour aller aussi, j'en profite pour annoncer que le numéro de décembre du Monde Libertaire, je le rappellerai dans le courant de la journée, le numéro de décembre du Monde Libertaire est consacré à l'autogestion et qu'il va y avoir donc des interventions, enfin des interviews, des articles qui vont sortir des interventions d'aujourd'hui, mais qu'il y aura aussi des présentations d'expériences et que celles d'entre vous qui souhaitent présenter les articles, c'est bien volontiers qu'on les accepterait. Il y a des contraintes évidemment techniques, c'est-à-dire que tout doit être bouclé pour le 12 novembre, mais vraiment, je trouve que ce texte n'est pas... Bah, c'est vite fait, 12 novembre. Vraiment, je vous invite à participer à la rédaction de ce dossier. Les expériences des uns et des autres, c'est toujours très précieux.
Voilà. Sachant que ces expériences d'autogestion, si elles n'ont pas fait autant d'émules qu'on aurait pu le souhaiter, c'est qu'à chaque fois, il y a soit répression, soit mis sous le chapeau de la poubelle pour que ces expressions-là ne puissent pas se mettre en œuvre. Parce que l'autogestion, c'est le mauvais exemple. Et d'ailleurs, on peut s'étonner que l'éducation nationale accepte encore qu'il y ait 3-4 structures qui s'autorisent à de l'autogestion. Voilà. Alors peut-être que c'est simplement une belle vitrine qu'on montre de temps en temps à l'étranger, ou peut-être qu'un jour, on va passer de l'expérimentation, alors non pas la généralisation, parce que peut-être qu'il y a un certain nombre de jeunes gens qui ne se plairaient pas dans ce type de modèle, mais au moins à l'extension, avec un lycée autogéré, on pourrait imaginer, par préfecture. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Serge, tu veux ajouter quelque chose? Tu tiens bien le micro proche de ta bouche.
Juste, évidemment, tout le monde par rapport à la question, si...
Qu'en mai 68, au-delà de tout ce qui a pu se passer, j'ai eu une tentative d'une boîte de redémarrer sous le contrôle des grévistes, et il y en a eu très peu. Il faut dire qu'à l'époque, la CGT était extrêmement forte, et le PC à l'intérieur de la CGT, et souhaitait plutôt que les gens qui occupaient les boîtes balayent la cour. Ce n'est pas déshonorant, ce qu'il y a à faire, bien entendu. Mais bon, donc ça a beaucoup freiné. Donc effectivement, le texte le dit bien, l'autogestion est devenue à la mode. Mais on en parlait beaucoup, même la CFDT de l'époque, qui dans son congrès qui a suivi de 70 a mis l'autogestion en avant. La direction de la CFDT à ce moment a été en train de centraliser l'organisation. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup apprécié Solidarno, c'est parce qu'à la fois ils avaient cette revendication qui commençait à en mettre en pratique, donc c'était pas du baratin. Ils s'étaient déjà fait la main parce qu'ils faisaient, il y a eu tout un tas d'événements. En général, tous les 10 ans, il y avait une grande grève. Et ils faisaient ce qu'ils appelaient la grève active, c'est-à-dire quand ils faisaient une grève dans une ville, tout le monde s'arrêtait, sauf un certain nombre d'entreprises qui tournaient parce qu'elles étaient utiles pour la population. Voilà, donc déjà, ils s'étaient déjà mis. Donc pour eux, l'autogestion, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà. Après, ils ont avancé. Et en plus, donc, parallèlement, l'organisation interne était c'était de l'anarchisme sans dire le mot, quoi. C'est-à-dire, au point de leur horizontalité extraordinaire. Un petit détail qui a son importance. Si vous connaissez un petit peu comment se pensent les congrès syndicaux, je parle des grandes organisations, de ce qu'il en reste, c'est pas démocratie évidente, hein. Bon, il y a tout un tas de règles. Bon, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que tous les délégués qui étaient là, qui étaient les délégués des secteurs d'entreprise, viennent mandater. Enfin, théoriquement, ça paraît simple, hein. Bon. Le problème, c'est que quand on fait un congrès avec un environnement hostile de l'État, il y a des choses qui surgissent. Donc ce qu'ils faisaient, ils se mettaient d'accord sur les points qui avaient été prévus avant. Et quand il y avait des éléments nouveaux, ils faisaient le congrès en deuxième partie. 15 jours après, les gens redescendaient dans les usines aient été mandatés. Bon, toutes ces choses-là me paraissent extrêmement importantes, aussi importantes que utiliser le mot autogestion, comme certaines organisations ont pu le faire en France. En France, à l'époque, c'est quand même quelque chose, il doit être pour moi, d'une façon générale, je pense que c'est important qu'une organisation soit cohérente entre le discours qu'elle projette et le fonctionnement interne qu'elle a. Et là, sur ce plan-là, on peut dire que Solidarność était vraiment... D'ailleurs, les gens, moi j'ai assisté au congrès, étaient quand même très contents de la façon dont ça s'était déroulé. Et le problème, c'est que l'État s'est rendu compte qu'il perdait les pédales. Et l'État, appuyé par l'URSS, d'où état de guerre, enfin bon, ceux qui se rappellent un petit peu de ça. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, que j'ai vécu. Dernier exemple, quand il y avait des discussions avec les patrons, bon... dans les grosses boîtes, comme il y avait des radios d'entreprise, les discussions étaient transmises en direct. Tous les ouvriers étaient dans la cour. Alors moi, je me disais, comme ça vous contrôlez, ce dit le patron, on contrôle ce que disent nos délégués. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté que le délégué soit vraiment le délégué qui a un mandat, qui représente un secteur, etc. Bon, je pourrais parler des heures. J'ai quand même séjourné assez longtemps là-bas.
Voilà, donc autre exemple... Autour de la Pologne, quelqu'un souhaiterait intervenir ?
Je vais peut-être préciser un... Je vais peut-être préciser un point, puisque Serge abordait la question du contrôle des délégués. Charles Piaget, qui a été un des leaders de l'IP, raconte dans un de ses livres qu'il avait, dans une négociation... et une prise de position publique après, était plus loin que ce que ses camarades lui avaient donné comme consigne. Et il a été sanctionné. Et il a dit, ils ont eu raison, effectivement, je me suis planté. Et c'est là, je trouve intéressant, alors avec la radio, puis aujourd'hui on peut avoir encore d'autres techniques, de pouvoir contrôler ce que disent les délégués. C'est une manière aussi de ne pas donner le pouvoir à certains qu'il peut-être tendance à le conserver.
De toute façon, le contrôle des délégués, c'est l'un des principes fondamentaux de l'autogestion. C'est-à-dire, sinon, on sait que les délégués prennent le pouvoir, prennent le savoir aussi, et finissent par ne représenter qu'eux-mêmes. Donc c'est à la fois contrôler les délégués nommés, mais c'est aussi faire en sorte, dans la mesure du possible, que cette délégation tourne. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont délégués. Si possible, eh bien, chacun son tour, ou chacun selon ses moyens, à un moment ou à un autre, se doit d'être le délégué de sa communauté. Quoi.
Oui, et ça, c'est un point très important. C'est de ne pas croire que seuls les sachants, parce qu'avec les sachants prennent le pouvoir et le conservent. Il faut que ça circule. Alors après ça, il y a certainement, le formateur que je suis est tout à fait dans le sens, on peut former, on peut expliquer, mais après, il faut que la parole circule, il faut que le pouvoir circule pour ne pas être accaparé par une minorité.
À toi.
Alors oui, justement, quels sont les principes fondamentaux de l'autogestion ? Enfin, vous en avez parlé, vous avez parlé du contrôle des délégués. Est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple ?
La rotation des mandats, ce que j'évoquais à l'instant, et puis que la délégation se fasse en assemblée générale. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'assembléisme au sens où tout le monde ne discute pas, ne décide pas de tout en assemblée générale. L'assemblée générale donne des mandats impératifs ou à tendance impérative aux dits délégués, et il doit le respecter comme Piaget aurait dû le faire, ce qu'évoquait Francis à l'instant. Voilà, hein, mais mandat impératif ou à tendance impérative, parce que s'il n'est qu'impératif, impératif, il n'y a pas de marge de manœuvre, hein, donc il faut quand même y avoir un peu de souplesse. Rotation, contrôle des mandats et décision collective le plus possible. Quoi. Vas-y.
J'aimerais bien savoir un peu le rôle des femmes aussi, historiquement, dans l'autogestion. Et dans le cadre des délégués, est-ce qu'il y avait quand même des choses qui étaient mises en place pour qu'il y ait des femmes qui fassent partie des délégués, ou est-ce qu'on n'en était pas encore là niveau féminisme
voilà. Serge, qu'as-tu vu en Pologne ? Ça va être très rapide, j'imagine, sur cette question, pour moi. Voilà. Puis chez l'IP, il y avait quand même pas mal de femmes. Il y a eu d'autres expériences, hein. Il y a des femmes qui avaient monté des coopératives, dans la lingerie par exemple, hein, qui après des licenciements ont repris une partie de la production et qui ont monté une coopérative qui a fonctionné un certain nombre d'années. Peut-être qu'elle fonctionne encore, d'ailleurs. Donc, il y a quand même des expériences où les femmes sont très impliquées dans la question de l'autogestion. En Pologne et chez Lips, c'est moins sûr.
Oui, je pourrais essayer sur le domaine des délégués, quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'ai assisté à la mise en place, parce que là, nous, on pense délégués, quand on pense en France, il y a des structures, bon, c'est certainement en repli, parce que le gouvernement, bon, les États essaient toujours de limiter, mais enfin, c'est une structure qui existe dans les entreprises. Or, en fait, Solidarność, comme ils ont complètement abandonné le syndicat officiel, s'est mis en place d'une façon tout à fait naturelle dans chaque secteur d'entreprise. Ils ont choisi un des délégués, c'est pas délégué, c'était très important de bien connaître les gens autour de soi, donc c'était pas rentabilier, etc. Bon. Donc se sont mis en place à 80 tous ces délégués, et j'avais pris la parole pour rajouter un point non négligeable dans la notion de délégation telle que la conçoit, en tout cas qu'ils l'ont pratiquée. Ces délégués, s'ils ne respectent pas leur mandat, sont révocables. Et là-bas, ce n'était pas de la rigolade, parce que si je me souviens bien, au bout de 4 mois, il y a 30% des délégués qui ont gerbé, qui ont été remplacés. Parce que peut-être c'était ceux qui n'avaient plus la tchatche, peut-être que le choix avait été fait trop vite. Et après, ça s'est très bien passé, parce que les gens n'étaient peut-être pas meilleurs, mais ils ont compris qu'ils étaient contrôlés et révocables. Et ça, c'est la notion de révocabilité me paraît assez importante.
Oui, sachant que la révocabilité, oui, mais... Il faut que les choses tournent, quoi. Même quand il n'y a pas révocabilité, il faut qu'à un moment donné, celui qui a, ou celle qui a été nommée dise « je passe la main à des plus jeunes, à des plus vieux, à des plus blonds, à des plus je sais pas quoi hein, », pour que les responsabilités tournent, quoi. Hein.
Juste un autre exemple, je ne prendrai pas en Pologne. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, on ne va pas appeler ça autogestion, mais là, le fonctionnement des apatistes, et je reste sur le plan des délégués, les apatistes, en gros, c'est bon, les gens qui luttent, mais c'est des paysans, bon, essentiellement, hein, c'est des paysans. Et donc, sur un poste délégué, alors bon, je ne parle pas des divers niveaux, ils ont 3 niveaux, bon, donc on envoie des délégués, ils mettent 2 personnes sur un même poste, enfin une même activité, ce qui fait qu'il y a une personne qui va aux réunions, etc., et qui redescend, redevient paysan 15 jours après, et est remplacé par l'autre. Alors certes, les décisions prennent un peu plus de temps, mais elles sont beaucoup plus en lien à ce que veulent réellement les gens dans les villages, etc. Moi, je suis toujours très sensible, quand on parle de choses comme ça, d'autogestion, de voir comment les organisations fonctionnent. Et je pense que ça, c'est une notion assez intéressante. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la même, mais il faut que le délégué se sente effectivement faire partie. Il ne faut pas qu'il soit détaché des gens qu'il représente, parce que dans les fonctions de représentation, bon, je ne parle pas de la politique et des députés, mais même en général dans le syndicalisme, souvent, les gens se sentent avoir un pouvoir, tu l'as dit. Et il faut qu'ils se sentent à représenter un collectif, voilà, et pour une durée qui ne va pas être à vie.
Mmh. Voilà. Vas-y, Francis.
Sur le mouvement zapatiste, le groupe Communes de Paris organise le 19 novembre la projection d'un film suivi d'un débat sur justement ce mouvement, un film réalisé par un groupe de jeunes qui a été vivre dans une communauté zapatiste il y a quelque temps. Donc c'est chez Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, en fin de journée. Ça, c'était le premier point. Autre point par rapport aux femmes, et comme nous sommes le groupe Communes de Paris, on ne peut pas faire l'impasse sur la Commune de Paris, pour souligner que des femmes avaient justement, comme Nathalie Lemel et d'autres, Louise Michel, mais bon, Nathalie Lemel surtout, parce que Louise Michel était dans une autre logique, c'est pas tout à fait pareil, avait créé des coopératives, avait vraiment mis en place des dispositifs de façon autonome, et elles étaient appuyées par Frankel, qui était le délégué de la commune au travail, et ça, c'était tout à fait intéressant. Mais évidemment, elle n'était pas membre de la commune en tant qu'organisation, puisque je vous rappelle qu'il n'y avait que des hommes qui en faisaient partie. Il y a une phrase terrible de Louise Michel sur la commune de Paris était merveilleuse, les hommes qui la composaient, bon, je reformule, on peut discuter. Et puis, deux points sur l'Espagne. Sur l'Espagne, la place des femmes, y compris au sein de la CNT, il y a un livre qui vient de sortir, que je conseille, qui est très bien fait aux éditions Sileps, sur les combattantes, et qui raconte la vie d'une trentaine de femmes, comme ça, caractéristiques, mais donc qui se sont battus pour avoir des fonctions, parce que ce n'était même pas facile d'avoir des fonctions en tant que femme au début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, dans l'Espagne, y compris dans le mouvement révolutionnaire CNT et la FAILLE. Et elles auront aussi beaucoup de difficultés pour, parce qu'elles sont parties au front, et il y en avait qui étaient dans la colonne Durruti et compagnie, et qu'au bout d'un an, même pas, on les a retirées avec des propos absolument infamants à leur égard, et d'ailleurs des propos qui ont été tenus par des gens, y compris de la CNT, de la FAILLE, les communistes, etc., en disant que si elles allaient au front, c'était pour coucher avec les types. Les mêmes propos que des communards ont tenus à l'égard des femmes qui allaient au front, allaient notamment au fort d'Issy-les-Moulineaux pour se battre à côté et faire le coup de feu à côté des hommes de la commune. Autrement dit, c'est le combat des femmes pour exister dans ces moments révolutionnaires, dans ces moments forts. Eh bien, vous voyez, la commune de Paris, l'Espagne, et puis, dernier point, Lippe, eh bien, justement, dans un des bouquins que j'ai pu lire, je vois, par exemple, que les femmes ont bien insisté sur le fait qu'elles étaient mises de côté, et quand vous regardez les photos, c'est significatif les photos, vous voyez assez peu de femmes en premier plan. C'est souvent les hommes. Les choses bougent, mais bougent lentement.
Je vais donner la parole. La question des femmes, c'est la question des femmes combattantes surtout, parce que les femmes soient à la cuisine ou que les femmes soient dans les infirmeries militaires, oui, aussi bien durant la Commune que pendant la guerre d'Espagne, c'est les femmes combattantes. Il y a quand même un mouvement aujourd'hui qui se réclame plus peu ou prou de l'autogestion, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan syrien, hein, où les militantes des YPG sont à la fois combattantes et déléguées, quoi. Alors après, il y a peut-être des choses à améliorer aussi du côté des Syriens, mais attends Serge, il y a quelqu'un qui a donné la parole. Des choses ont bougé, quoi, avec le siècle.
Alors pour le coup, c'est une vraie question que je me pose justement par rapport à la place des femmes. Comment se fait-il que dans le mouvement anarchiste et libertaire qui prône la disparition des inégalités et sociales, et surtout qui prône en fait la mort du capitalisme et du coup des inégalités qu'il crée, comment cela se fait-il que personne ne se soit dit qu'il était important, voire même essentiel, que le féminisme ait une place largement plus grande et plus répandue?
Oui, enfin, en l'occurrence, à la Fédération anarchiste, il y a un certain nombre de femmes qui se réclament de l'anarcho-féminisme, et notre secrétaire général est une femme. Donc elles ont aussi leur place, même s'il est vrai qu'elles représentent grosso modo un tiers des militantes. Un tiers des militants sont des militantes, quoi. Donc il y a encore une minorité, mais elle est, à mon sens, de mieux en mieux représentée. Il y a sans doute du travail encore à faire. Serge, tu voulais ajouter quelque chose? Là, toi? Qui? Oui. Alors, avant Serge. Allez, Léna, vas-y. Et tu passeras le micro à Serge après, s'il te plaît.
Non, je voulais juste dire sur cette question, c'est parce que ça fait des millénaires que la domination masculine existe, et que même si des hommes veulent s'en débarrasser, c'est quelque chose qui est ancré, c'est social. Même les femmes, d'ailleurs, les femmes comme les hommes grandissent dans un milieu qui est fait pour créer en fait une domination masculine et une soumission féminine. Et même les femmes qui veulent le combattre ont du mal, et les hommes aussi. Donc à ces époques-là, ça m'étonne moins, parce que c'était pas des combats qui étaient aussi présents qu'aujourd'hui. Et ce qui est plus problématique, c'est par contre si aujourd'hui ça continue, alors que c'est un combat qui est quand même beaucoup plus important. Et à ce moment-là, oui, il faudrait, trouver des manières pour que les hommes comme les femmes, en fait, réussissent à briser ces normes sociales, en fait, qu'on nous impose depuis des millénaires, en fait.
Attends, il y a une autre prise de parole avant toi. J'essaie de faire parler le maximum de gens, parce que... Et donc, alors après, il faudrait que tu le passes derrière.
Ok. Juste un petit mot pour dire qu'il y a des expériences de combat actuellement en France qui sont autogestionnaires, je pense, et qui sont... où les femmes se regroupent, en fait. C'est par exemple ce qui se passe à Bure, où, pour reprendre un peu une sorte de moyen d'action, j'allais dire, issu des ZAD, etc., mais où on va retrouver beaucoup plus de militantes que de militants, et où les moyens d'autogestion sont colorés avec des techniques de non-mixité, queer bloc, etc., qui font que, oui, on vit une expérience d'autogestion. Enfin, moi, je ne me suis jamais sentie autant en autogestion que dans un groupe féministe. Voilà. Donc, oui, ça remet en cause un petit peu l'autogestion de manière générale dans les pratiques militantes en France, là, parce qu'il a fallu que j'attende d'arriver à Bure pour vraiment me sentir en pleine autogestion, quoi.
Voilà. Oui, comme quoi, ça avance un petit peu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole derrière toi, puis après on la redonnera à Serge quand même. Parce que c'était depuis très longtemps, mais oui, mais j'ai le soleil dans l'œil. Non, c'est toi. Vas-y donc.
Merci. Oui, sur ce sujet, moi je pense aussi, l'expérience du Rojava a été citée tout à l'heure. Abdoulaye Öcalan, il écrit très clairement que c'est le patriarcat en fait qu'il faut combattre, et il y a toute une structuration du mouvement qui va vers systématiquement des rôles mixtes, enfin partagés de leadership avec à la fois un homme et une femme en termes de délégués et tout ça. Et je pense que l'exemple est vraiment très intéressant. Moi justement, je voulais aussi dire, ça a bien été dit dans le texte initial, quand on parle d'autogestion, on se dit, quel spectre on prend ? Est-ce qu'on prend le terme dans son sens le plus précis ? Et c'est intéressant, c'est un angle de vue. Ou bien est-ce qu'on cherche aussi à regarder les filiations ? Et moi, je trouve intéressant d'aller chercher ces filiations. Je vais donner deux exemples. Les communs, tout ce vaste mouvement qui vient de l'économie et qui vient aussi des pratiques très concrètes qui ont traversé les âges. Principe de base des communs, c'est l'autogouvernance. Alors, quand on dit autogouvernance, on n'utilise pas le même terme qu'autogestion. Quand on regarde dans les pratiques très concrètes, décisions par les membres qui choisissent leurs propres règles, leur mode de fonctionnement, et ainsi de suite, trois petits points, on est sur une parenté très intéressante. Et moi, je pense que quand on est ici, comme vous, les jeunes, en recherche, en fait, en questionnement, en recherche aussi de pratiques, d'exemples pour savoir que ça existe, que ça se fait, et se nourrir, c'est vachement intéressant d'aller voir ça. Autre exemple aussi, justement, si on tire ce fil de l'autogouvernance, moi, je vous invite à lire ce bouquin phénoménal qui est sorti l'année dernière de David Graeber, qui n'est pas le moindre, et David Wengrow, l'archéologue, et avec des exemples mais incroyables au travers de l'histoire des âges, de finalement, sur tous les continents, de cités et autres, je vous laisserai découvrir, mais finalement on se rend compte que le nombre de cultures, de civilisations qui ont fonctionné justement sur ces principes d'autogouvernance, en fait sont la majeure partie, avant que finalement d'autres modalités de contrôle, de domination, de hiérarchie viennent envahir l'espace et les modes de pratique. Donc il y a matière à se nourrir et aussi à se rendre compte que c'est pas inéluctable en fait le système. Ils utilisent cette expression, ils disent qu'on est stuck, qu'on est coincé, stuck le terme anglais. On est coincé, on est enfermé dans des modèles extrêmement restreints de fonctionnement, mais que ce n'est pas inéluctable. Et donc, on va y arriver.
Voilà. Sachant que l'ouvrage en question fait 650 pages, donc il faut quand même être un lecteur un petit peu aguerri. Voilà. Et les communs, c'est pas on parle beaucoup aujourd'hui des communs. Les communs auxquels fait référence le copain, là, c'est les terres agricoles collectivisées et mises en commun, ou éventuellement les bois, qui, dans les villages d'Ariège et éventuellement de Massif Central, ont fonctionné très très longtemps. Et ça fonctionnait aussi en Angleterre, avant que l'aristocratie n'accapare l'ensemble des terres, quoi.
Et que, juste pour compléter, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a de nombreuses structures. Moi, avec d'autres, on a créé une coopérative. Et bien, en fait, notre modèle de structure et de fonctionnement, c'est celui des communs. Donc, dans le monde aussi de la production numérique, il y a beaucoup de choses qui se sont créées sur cette base-là. Donc, je veux dire, effectivement, il y a les communs historiques qui étaient très, très centrés sur des ressources. Donc, les ressources intéressantes dans la période qu'on traverse, comment protéger les ressources communes et tout ça. Maintenant, il y a aussi toutes les créations, productions, co-créations qui peuvent se construire sur cette base de pratiques des communs. Et il y en a beaucoup quand on cherche.
Sachant que la Fédération des SCOP doit à peu près regrouper, je ne sais pas, 2000 SCOP à peu près aujourd'hui. Alors des petites ou des grandes, mais il y a quand même pas mal de structures qui essaient de vivre autrement l'économie. Quelqu'un souhaite la parole ?
Attends, je vois rien du tout, j'ai le soleil dans l'œil. Bah oui, Serge, tiens, allez.
Oui, juste un complément très rapide sur le rôle des femmes dans des événements sociaux forts à être importants. Moi, j'ai toujours constaté que quand il y avait un événement qui risquait de remettre en cause non seulement l'aspect économique, social, mais l'aspect de la vie des individus, les femmes étaient extrêmement présentes. C'était le cas à Solidarność, on a mis en avant Valéza, mais ça c'est pour des raisons politiques que l'Église, mais il y a énormément de femmes qui y ont participé avec des responsabilités. Un dernier point, c'est sur le Rojava. Au Rojava, tout poste de représentation, il y a un homme et une femme. Donc, c'est pas du baratin. Et les femmes, par exemple, si elles ont à se plaindre de quelque chose par rapport à leur mari ou leur frère, etc., il y a dans chaque ville, elles peuvent aller être prises en charge par des femmes qui vont. Et puis, ça rigole pas. Elles descendent dans la famille en question, ou, etc. Donc, il y a quand même une réalité. Il faut quand même se rendre compte de l'environnement avec son pays arabe. Bon, la tradition kurde n'est pas la même. D'ailleurs, dans les zones arabes qui sont reliées au Rojava, qui sont du côté des Kurdes, enfin du Kurdistan, ça évolue plus difficilement, mais ça évolue. Et donc, un phénomène social révolutionnaire, forcément, transforme la vie des gens. Et donc, tout en Rojava, se sont engouffrés là les jeunes, les femmes, etc., par rapport à une chape de plomb qu'il y avait, que de l'État, de l'Église, etc. Bon, je passe.
Voilà, quelqu'un d'autre ? Oui, derrière toi, Serge.
Pardon, oui. Déjà, pour citer un exemple, alors qui n'est pas forcément très apprécié dans le monde libertaire, mais Alternativa, ANV, les Amis de la Terre organisent très régulièrement des camps climat pendant lequel tout est en autogestion. Ils font un effort particulier à ce que tous les groupes soient co-gérés, que ce soit toujours des binômes femmes-hommes. Donc bon, ça c'est un exemple. Je sais que dans ma boîte, on essaye aussi d'avoir à la direction des pôles métiers un binôme femmes-hommes. Bon, ça c'est une bataille syndicale longue. Rojava, je voulais en entendre un peu plus parler. Entre le communisme, le communalisme libertaire de Bukchik et l'autogestion, est-ce qu'il y a quelque chose qui se nourrit l'un l'autre, voilà.
Tout à fait. Bukchin, c'est de l'autogestion communaliste. C'est-à-dire qu'on autogère la vie communale, la vie de la ville. Hein, sachant que l'autogestion peut s'appliquer à un lycée, peut s'appliquer à une ville, peut s'appliquer à une usine, voire à une région tout entière. Quoi. Après, c'est la question de qui représente qui et quelles sont les structures qu'on met en place pour gérer au micro local un certain nombre de choses et puis passer à l'échelon au-dessus quand il s'agit de faire des routes ou éventuellement de transporter les gens par le chemin de fer. Mais oui, ça, c'est à tous les niveaux et à tous les endroits. Rien n'empêche l'autogestion d'être généralisée. Hein. En 68, ou après, je ne sais plus, on parlait bien d'autogestion généralisée, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
Oui, je voulais rebondir sur ce que disait la collègue en disant que ça faisait des années, des siècles qu'on était dans une société patriarcale. Et pourquoi, c'est vrai, c'est intéressant, c'est de voir que les femmes hésitent encore aujourd'hui à prendre position, à intervenir. Un exemple, je m'occupe d'une émission de radio sur Radio Libertaire et je demande à une personne qui dirige un musée de venir. Elle me dira, pas moi, mais lui, oui. C'est un peu dommage quand même, alors qu'en fait, elle a tout à fait sa place. Et puis, et en fait, on a une société qui corsette encore. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire. Et le bouquin de Greber, qui aurait dû être mieux rédigé, mais enfin bon, comme il est mort, de toute façon, c'était un peu compliqué, mais qui est très riche d'expérience. Il y a 600 pages, mais on n'est pas obligé de les lire d'une traite. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que Greber et son collègue, dont je ne me rappelle plus le nom, fait ressortir des expériences qui ont été cachées. On est vraiment dans de l'archéologie politique, sociétale, etc. Et c'est quand même intéressant de voir que d'autres modes de gestion ont été possibles dans l'histoire et pas sur 3 mois, sur des siècles. Et c'est là qu'on doit creuser que le bouquin de Greber est intéressant.
Quelqu'un d'autre, non ?
Je vous pose une question.
Vas-y.
Bonjour. Je m'appelle Otavio, je suis professeur de littérature brésilien. Et bien, ma question, c'est que je connais un petit peu la réponse éco-socialiste pour le changement climatique, mais je ne connais pas, bien, c'est une ignorance, la réponse anarchiste à l'échange climatique. Il y a quelques projets aujourd'hui, comment ça marche? Ça, c'est ma question.
Oui, c'est une question qui est un peu en dehors du débat, mais je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut répondre sur cette affaire-là, sur la question du climat. Tu veux dire quelque chose? Oui? Tu as une réponse? Ou une suite de questionnements, qu'importe, d'ailleurs.
Pour le coup, c'est pas tant une réponse que des conseils, peut-être de lecture ou de renseignement. On a cité Murray Bookchin tout à l'heure, qui a lancé une idée de mouvement qui s'appelle le municipalisme libertaire et qui a pour fondement idéologique l'éducation populaire, l'économie morale et l'écologie sociale. Et il y a un livre justement qui s'appelle « L'écologie sociale et libertaire » de Murray Bookchin. Et il revient énormément justement sur cette notion, sur le fait que très souvent on pensait que le capitalisme avait une fin économique, mais que de plus en plus, et avec l'événement de la mondialisation et de tout ça, on se rend compte que le capitalisme en fait a une limite et que cette limite-là, elle est écologique. Et le municipalisme libertaire était pour lui une réponse directe à comment gérer cette crise écologique mondiale qui a été amenée par le capitalisme. Il posait la question de est-ce que c'était pas trop tard pour le faire, mais c'est une question qui d'ailleurs est de plus en plus d'actualité hein, vu les périodes que l'on traverse. Mais c'est pas une réponse, c'est un conseil pour le coup. Murray Bookchin est un très bon auteur.
Voilà. Ce que je vous propose, on débattra de toutes ces questions aux autogestionnaires durant toute la journée, c'est peut-être faire 5 minutes de pause très rapide, et ensuite on passera la parole à Philippe qui s'échappe là sur les coopératives alimentaires.